Oui, Dieu notre Père, nous avons senti ton amour qui est venu jusqu'à nous et nous a enveloppé le cœur. Merci. Continue, Père, d'ouvrir nos cœurs à ton amour. Donne-nous ta paix. Viens nous libérer de nos angoisses, de nos fardeaux, de nos détresses. Fais-nous goûter ce soir quelque chose de ton amour éternel. Donne-nous d'entendre cette parole que tu nous adresses par ton Fils bien-aimé. Et que tu souffles sur nous par l'Esprit Saint. De l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 7, à partir du verset 1. Après qu'il eut fini de faire entendre au peuple toutes ces paroles, Jésus entra dans Capharnaüm. Or, un centurion avait malade et sur le point de mourir un esclave qui lui était cher. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques-uns des anciens, des Juifs, pour le prier de venir sauver son esclave. Arrivé auprès de Jésus, il le suppliait instamment. Il est digne, disait-il, que tu lui accordes cela. Il aime en effet notre nation, et c'est lui qui nous a bâti la synagogue. Jésus faisait route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne te dérange pas davantage, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Aussi bien, ne me suis-je pas jugé digne de venir te trouver, mais dis un mot et que mon enfant soit guéri. Car moi, qui n'ai rang que de subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un « va » et il va, et à un autre « vient » et il vient, et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. En entendant ces paroles, Jésus l'admira et se retournant, il dit à la foule qui le suivait « Je vous le dis, pas même en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Et de retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en parfaite santé. Alors, dans l'épisode que nous entendons aujourd'hui, nous voyons que déjà les choses se passent à Capharnaüm. Capharnaüm, c'est un lieu qui est au bord du lac de Galilée. Donc en Galilée, et c'est un lieu très cosmopolite. Il y a vraiment beaucoup de gens de nationalités différentes dans ce lieu de Capharnaüm, un peu comme dans notre église où je pense qu'il y a aussi des gens qui viennent de tout milieu, puis aussi des gens qui viennent d'autre part que la France, puisque je sais qu'il y a des gens qui viennent aussi de l'étranger. Et à Capharnaüm, c'est là où Jésus fait d'ailleurs, c'est dans cette ville qu'il accomplit la plupart de son ministère. Il trouve souvent dans cette ville où il y a en particulier la maison de Pierre. Il se trouve que un centurion romain vint le voir. Un centurion, c'est un chef romain qui possède une centurie, c'est-à-dire à peu près une centaine d'hommes, et donc qui est un gradé romain. C'est pas le plus haut gradé, parce que vous savez que dans l'armée romaine, ça s'appelle une légion. Donc les légions, c'est le chef de la légion qui est le plus haut gradé, mais en dessous il y a des centuries avec des centurions qui commandent les hommes. Vous savez que l'armée romaine était connue pour être très disciplinée, ce qui a fait sa force, et c'est pour ça qu'elle a pu envahir tout le bassin méditerranéen, parce qu'elle était très disciplinée. Alors les centurions de l'armée romaine ne sont pas tous des romains, très souvent il y avait des étrangers qui s'étaient engagés dans cette armée. Et ce centurion a un esclave qui est malade. Alors à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup d'esclavage, et ce centurion, je dirais entre guillemets sans mauvaise foi, a un esclave parce que dans sa culture, l'esclavage est quelque chose de normal. Malheureusement, on n'a pas encore progressé jusqu'à découvrir que chacun est digne d'être libre, et donc son esclave, il le sert comme un serviteur, simplement il ne le paye pas, il le nourrit, et il lui donne de quoi vivre. Mais on s'aperçoit qu'entre cet esclave et ce centurion s'est nouée une relation particulière et que cet esclave est devenu finalement son ami. Il le considère plus comme son ami que comme son esclave. Et donc quand cet homme tombe malade, ce centurion a le cœur transpercé. Quand on a un ami, quand il tombe malade, on fait tout pour essayer de le guérir. Et il va tout faire pour essayer de guérir son esclave qui est son ami. Et il va donc faire envoyer des gens vers Jésus. Donc cet esclave, il est malade, et donc le centurion envoie des anciens des Juifs pour venir aller auprès de Jésus, des anciens, c'est-à-dire des gens qui sont responsables de la communauté juive de Capharnaüm. Et ces anciens des Juifs acceptent de faire cette démarche parce que ce centurion romain a montré beaucoup de bonté pour les Juifs de Galilée. Rappelez-vous que Rome, c'est comme une armée d'occupation. Donc les Romains, ils occupent ce pays. Et quand on occupe un pays, en général, on ne prend pas beaucoup de précautions par rapport à ceux qui sont occupés. Et bien, visiblement, ce centurion, il a aussi de l'égard pour les gens du pays qu'il occupe, non seulement pour son esclave, et en particulier, il a de l'égard pour le peuple juif. Et certainement, il a lu les Écritures, la Bible, et il y a des choses qui ont dû toucher son cœur. Donc on voit que c'est un homme vraiment de qualité, même s'il est dans une structure sociale où il y a des inégalités, des injustices et tout ce qu'on veut. C'est pour ça que quand les anciens arrivent devant Jésus, ils transmettent ce message du centurion en disant « Il est digne que tu lui accordes cela, que tu lui accordes la guérison de son esclave. » Alors, ce qui est assez paradoxal dans le texte, c'est que les anciens disent « Il est digne que tu lui accordes cette guérison. » Et lui, le centurion, il fera envoyer dire à Jésus « Moi, je suis indigne que tu viennes dans ma maison. » Donc, les autres le jugent digne d'obtenir une guérison pour son esclave, mais lui se juge indigne que Jésus vienne dans sa maison, alors que c'est l'occupant romain. Donc, l'occupant romain, normalement, tout le monde doit se mettre à genoux devant lui, si j'ose dire. Et lui se juge indigne qu'un homme de ce pays occupé vienne dans sa maison. Vous voyez la qualité morale de cet homme. Jésus connaît tout son centurion puisqu'il est Dieu. Donc, il sent à travers les démarches qu'on lui de ses anciens qu'il y a un appel de son père à aller guérir cet esclave. Et il y va. Mais ce centurion, apprenant que Jésus se rapproche de sa maison et ne le guérit pas son esclave de loin, lui envoie une autre ambassade pour lui dire justement qu'il n'est pas digne qu'il entre dans sa maison, cette parole qu'on reprend, qui est tellement belle qu'on reprend à chaque Eucharistie. Et il prend l'image de sa propre mission de centurion, où il dit que lui, en tant que centurion, quand il commande un soldat romain, sa parole est efficace. Donc combien plus la parole de Jésus peut-elle être efficace de loin pour guérir son esclave? Et Jésus est bouleversé par la foi de cet homme. Il est bouleversé parce que cet homme, il a réalisé la puissance du Christ et il a foi en lui. Donc il sait qu'il n'y a pas besoin que le Christ fasse beaucoup de choses, il a juste à parler pour que son esclave soit guéri. Et ce qui touche probablement aussi beaucoup le Seigneur, c'est l'humilité de cet homme. Une profonde humilité, je l'ai montré à travers le récit tel que je l'ai expliqué. Cet homme est très humble devant le Seigneur, et s'il y a une guérison pour son esclave, lui-même se juge indigne d'aller lui-même demander cette guérison à Jésus. Vous voyez jusqu'où va l'humilité de cet homme, et je pense que c'est un exemple pour chacun d'entre nous, parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette assemblée, à commencer par moi, qui arrive à la cheville de ce centurion romain pour son humilité. Moi, je suis ébahi de l'humilité de ce centurion romain et de sa foi. Et c'est pour ça qu'il ouvre le cœur de Dieu, c'est pour ça que son esclave est guéri, puisqu'il ne demande même pas une grâce pour lui-même, mais pour son esclave, qui est en même temps son ami. Alors ce soir, nous demandons au Seigneur un peu de l'humilité, de la foi de ce centurion, une petite part, comme Élisée qui demandait une double part des grâces d'Élie, nous demandons une petite part de la foi et de l'humilité de ce centurion pour nous, mais aussi pour ceux pour qui nous prions, parce que je sais qu'il y en a beaucoup ici qui viennent prier pour des personnes, et comme les témoignages le montrent, il y a des personnes qui sont guéries pendant cette prière ou un peu plus tard, grâce à des gens qui viennent prier ici. Alors je vais demander ce soir à Francis de venir nous donner son témoignage, ou plus exactement, je vais le donner pour elle, et après elle vous dira un petit mot pour confirmer ce que je viens de dire.
Bonsoir.
Alors Francis, qui est de la Guadeloupe, avait un gros lumbago quand elle est venue à la prière des malades. Le 13 juin dernier, elle marchait avec une canne. Elle arrivait difficilement à s'habiller. Elle devait s'accrocher à la rampe pour monter ou descendre les escaliers. Donc son médecin lui avait dit d'aller chercher un kiné pour s'en sortir. Bon, un lumbago, on peut s'en sortir à force de kiné. Mais quand elle est venue à la prière des malades, une parole de connaissance a annoncé qu'une personne est entrée avec un lumbago et que cette personne ressortirait sans canne de l'église. En sortant de l'église, Francis s'est aperçu qu'elle n'avait plus besoin de sa canne, Dans le métro, elle n'avait plus besoin de s'accrocher à la rampe pour descendre ou monter les escaliers. Bref, le Seigneur lui a accordé une guérison. Puis elle va nous dire un petit mot.
Merci, Père, d'avoir pris la parole en mon nom. Pour résumer ma guérison, je suis pleine de reconnaissance face à notre Seigneur. Persévérons, ayons de la patience, car le Seigneur est vivant. Il aime ses enfants et il agit pour leur bien. Que son nom soit béni, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Voilà, merci Anne-Francise. Alors maintenant, je vais vous lire un témoignage que j'ai reçu. Je reçois beaucoup de témoignages et donc j'en prends certains pour vous les retransmettre. Bonjour, je vous remets un témoignage écrit car il m'a semblé entendre que l'on pouvait déposer ces témoignages sur Internet. Donc effectivement, Anna qui témoigne me l'a envoyé par Internet en passant par le site de la paroisse. Un ami m'a fait découvrir cette église en janvier 2019 suite à mon aménagement à Paris. Je reconnais qu'au début, j'ai été sceptique, mais je suis revenue toute seule parce que j'ai beaucoup aimé les énergies qui se dégageaient avec les chants. Cela me réconfortait d'être dans cette ambiance joyeuse. Avec le temps, des choses que je ne comprenais pas se sont passées à l'intérieur de moi, à chaque prière. Pendant 2 mois, en mars et en avril, je pleurais toutes les larmes de mon corps à partir de la moitié de la prière et jusqu'à la fin. Cela me soulageait énormément sans pouvoir vraiment l'expliquer. J'ai voulu emmener une amie pour lui faire découvrir cette prière le 23 mai dernier. Je lui ai donné rendez-vous à l'intérieur de l'église car je savais que je serais en retard à cause de mon travail. Ce jour-là, lorsque je suis arrivé à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, je n'avais aucune envie d'assister à la prière. Je me sentais complètement déprimé. J'étais en burn-out à cause de mon travail. Je travaillais plus de 15 heures par jour en moyenne. À ce moment-là, ma vie privée me décevait beaucoup, bref, ça n'allait pas fort. Mais je ne voulais pas décevoir cette amie qui en avait besoin et qui n'y serait pas allée sans moi. En passant les portes, je pleurais de douleur à cause de mon dos qui était extrêmement douloureux. Je venais de passer 5 heures à 2 roues, donc sur une moto, à cause du boulot. J'ai rejoint mon amie qui était, elle, très heureuse d'être là. Moi, j'étais stressé, tendu, énervé et pas du tout dans cette prière. Je dirais même que je suis arrivé en colère contre le monde entier. Lorsque la prière a commencé, je n'arrivais même pas à me tenir debout, tellement mon dos me faisait mal. Je suis resté assise au sol contre l'un des murs. Cela faisait 15 jours que j'avais mal. Aucune position ne me soulageait, debout, assise, allongée dans mon lit. Je ne tenais pas en place, c'était très très inconfortable. Assise à mon bureau, la douleur remontait du coccyx jusqu'au cou. Ce jour-là, le 23 mai, en entrant dans l'église, je me suis dit à l'intérieur de moi-même, si Jésus existe vraiment, et s'il est vraiment capable de ses grâces, alors je le mets au défi de m'enlever cette douleur. Bon, elle met Jésus au défi. J'en avais les larmes aux yeux, pour être honnête, j'étais complètement fermé au monde qui m'entourait. Je me fichais de tout, et j'étais là uniquement pour respecter ma parole envers mon ami. Ça, je crois que c'est... Ça a dû toucher le Seigneur, qu'elle respecte sa parole. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque la première parole de connaissance fut la suivante. Il y a une femme dans l'église dont le dos est douloureux. Ce n'est pas très grave, mais c'est très gênant. Le Seigneur lui remet un dos fonctionnel. En contrepartie, elle devra cesser de se juger elle-même et de juger les autres. Je me suis figé parce que c'était moi, et surtout la dernière phrase. Au même moment, j'ai ressenti une chose inexplicable dans mon dos, on aurait dit du coton. Je ne sentais plus mon dos physiquement. On aurait dit qu'on me l'avait enlevé. J'avais l'impression d'être sur un nuage. Non seulement je n'avais plus de douleur, mais en plus je me sentais légère, si légère. Et je répétais à mes voix, mais non, mais c'est pas possible, c'est dans ma tête, c'est psychologique. J'ai ressenti ces fourmillements dans ma colonne vertébrale jusqu'à la fin de la prière. À la fin, mon ami, qui n'avait remarqué ni mon état initial ni ma réaction, me dit « C'était chouette, allez, on va aller boire un verre à côté. » Je l'ai suivi. Je me suis relevé doucement car j'avais pris l'habitude de craindre la douleur à chaque changement de position. Et rien. Nous avons marché, nous sommes assis à une terrasse, je n'avais toujours aucune douleur, c'était impensable. Puis nous nous sommes quittés, j'ai ensuite rejoint d'autres amis pour dîner, et en y allant, en m'asseyant, je n'avais toujours pas mal. J'ai essayé de trouver des raisons, je me suis dit, c'est l'alcool dans le cocktail que tu as bu tout à l'heure qui te fait croire que tu n'as pas mal. Et puis je suis rentré en scooter, j'ai garé mon scooter, je suis arrivé chez moi et jusqu'au coucher, j'ai oublié cette histoire de douleur. En m'allongeant dans mon lit, je n'avais toujours rien. Au matin, rien. Les jours qui ont suivi, toujours rien. Donc nous sommes le 31 août, c'est la date où elle a écrit ce texte. Je n'ai jamais plus eu de douleur au dos. Alors, à ce jour, je raconte cette histoire et j'ai encore du mal à le réaliser. Je me rappellerai toujours de cette journée. Je me suis dit, alors c'est vrai, il existe, tout est possible. J'en ai pleuré de gratitude. Je n'ai pas de religion. Je suis issu de deux parents de confession opposée. Et pour être honnête, je pensais vraiment qu'il fallait être baptisé pour recevoir des grâces. Même si j'ai toujours aimé entrer dans les églises et depuis petite parler à la Vierge Marie et me confesser à elle. Je ne sais pas pourquoi, elle me semblait être un intermédiaire autorisé. Je n'avais pas encore vraiment rencontré Jésus. Alors je souhaite vous remercier vraiment pour votre travail, pour votre prière, pour ce que vous apportez aux gens. Cela me brise le cœur d'entendre certaines histoires parfois, mais cela me remplit d'une joie immense de savoir que tout n'est pas perdu grâce à vous et grâce à Jésus. Merci mille fois, Anna. Voilà, merci Seigneur pour ces deux témoignages. Témoignage d'Anna qui, vous voyez, elle découvre la foi chrétienne à travers sa guérison. Elle va certainement continuer de cheminer avec le Seigneur. Et elle a rencontré Jésus à travers cette guérison. Nous allons maintenant exposer le Saint-Sacrement. Nous allons demander à Jésus de venir lui-même au milieu de nous. Il est réellement présent. Ne le mettez pas au défi comme Anna, ce n'est pas la peine. Demandez-lui humblement de venir à votre secours, que vous soyez baptisé ou pas baptisé. Le Seigneur vous aime et il veut vous montrer son amour. Amen.